présenté ce soir par Stanislas Vazak.
Bonsoir. 21 morts et près de 1200 cas recensés. Le coronavirus continue de s'étendre sur la France. Le gouvernement encourage le recours à la télémédecine, une solution qui ne fait pas l'unanimité chez les médecins. Nous ferons le point avec Tara Schlegel. Le coronavirus qui plombe l'économie française. La croissance est sur le point de s'arrêter, selon la Banque de France. Les explications de Marie Viennou. Et puis en Italie, le confinement lié au Covid-19 provoque des mutineries meurtrières dans les prisons. Bruce de Galzin nous appellera de Rome. Dans le reste de l'actualité, il y a la visite de Recep Tayyip Erdogan à Bruxelles. Le président turc réclame le soutien des Européens dans sa politique syrienne, tout en agitant la menace d'une invasion migratoire. Une rencontre suivie par Angélique Boin. La mort de Max von Sydow, l'acteur franco-suédois avait débuté sa carrière avec son compatriote Ingmar Bergman, mais son répertoire allait bien au-delà du cinéma suédois. L'hommage de Gilles Jacob dans ce journal. Le coronavirus a fait de nouvelles victimes aujourd'hui en France, l'une en Corse et l'autre dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, ce qui porte à 21 le nombre total de personnes décédées dans notre pays. Le nombre de cas confirmés de Covid-19 s'élève désormais à 1191, 65 de plus qu'hier. Pour enrayer la propagation de l'épidémie, le gouvernement interdit tous les rassemblements de plus de 1000 personnes. Première conséquence spectaculaire, c'est à huis clos que les footballeurs du Paris Saint-Germain accueilleront mercredi au Parc des Princes les Allemands de Dortmund. Pour le moment, le gouvernement ne décrète pas le passage au stade 3 de l'état d'alerte qui implique la mobilisation de tous les professionnels de santé, mais il encourage le recours à la télémédecine. Un décret va assouplir les conditions qui encadrent les téléconsultations. Tara Schlegel, bonsoir.
Bonsoir.
La télémédecine est une solution a priori séduisante, mais qui fait débat chez les professionnels de santé.
Le gouvernement veut d'abord faciliter ces téléconsultations en les rendant toutes remboursables. Jusqu'à présent, il fallait que le praticien choisi suivent déjà son malade. Avec le décret, ce n'est plus le cas et chacun peut, via une plateforme, décrocher un rendez-vous vidéo, à condition bien sûr que les médecins soient équipés. Sur le fond, certains syndicats comme Avenir SPÉ ou la CSMF réclamaient ce dispositif, mais d'autres sont plus réservés. À l'image d'MG France, son vice-président Jean-François Calme.
La téléconsultation à la hussarde, sans connaître le patient, c'est une mesure de communication, très sincèrement. Si on parle en termes de temps de consultation, il faut autant de temps pour faire une téléconsultation que pour faire une consultation. Et si on parle en termes de connaissance du patient, rien ne remplace le suivi par le médecin généraliste. Et enfin, dans des cas où le patient vous dit « oui, je tousse, je suis pas bien, j'ai de la fièvre », il est très probable qu'on va finir par aller le voir, parce qu'on peut difficilement juger de la gravité d'un cas en téléconsultation. Donc ça peut être un outil d'orientation, mais ça peut pas être un outil de soin.
Pour soigner, il faut notamment ausculter les poumons pour ce virus respiratoire. Or, les stéthoscopes connectés sont rares et finalement pas si pratiques, poursuit le docteur Calme.
C'est un outil de télémédecine qui est utile notamment dans les EHPAD. Vous avez un personnel formé à auscultation qui va positionner correctement le stéthoscope. Ça sous-entend donc qu'il y a un soignant qui, de toute façon, va au domicile du patient pour positionner le stéthoscope. Donc en fait, la problématique est la même. Il faut qu'il y ait un soignant qui se déplace et qui aille voir le patient. C'est pour ça que je vous dis que, à mon avis, la télémédecine, c'est pas la solution miracle telle qu'elle est présentée aujourd'hui.
Pour l'instant, 138 000 téléconsultations ont été remboursées en France de septembre 2018 à fin 2019. Et jusqu'à présent, le dispositif n'avait pas décollé.
Tara Schlegel, merci. L'épidémie de coronavirus qui perturbe aussi la campagne des élections municipales. On ne compte plus les annulations de meetings. À Paris, par exemple, Anne Hidalgo renonce à la réunion prévue jeudi au gymnase Japy. En revanche, Rachida Dati maintient son meeting prévu ce soir Salle Gaveau, mais l'affluence sera contenue sous la barre des 1000 personnes. Une chose est sûre, le gouvernement exclut pour l'heure de reporter le premier tour dimanche prochain. Le Covid-19 qui a d'ores et déjà un impact sur l'économie française. La croissance est pratiquement à l'arrêt selon la Banque de France. Au premier trimestre, le PIB ne devrait progresser que de 0,1% contre 0,3% envisagé il y a un mois. Marie Viennou, bonsoir.
Bonsoir.
Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, et la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, ont réuni ce matin à Bercy les représentants des entreprises. Il s'agissait de la troisième réunion du genre. Et Marie, de nombreux secteurs de l'économie voient leur activité chuter avec la propagation de l'économie.
Oui, 60% de baisse de chiffre d'affaires en moyenne pour les traiteurs, 25% pour les restaurateurs, 30 à 40% dans l'hôtellerie. Voilà quelques chiffres communiqués au ministre ce matin. D'où des problèmes de trésorerie, puisque si l'argent ne rentre plus, il sort toujours pour les salaires, les frais, les impôts fiscaux et sociaux. Alors ce matin, Bercy a redit que l'État serait un percepteur compréhensif. Il pourrait même accorder des réductions d'impôts au cas par cas. Roland Aigui, président confédéral de l'Union des métiers de l'hôtellerie, plutôt satisfait.
Ce qui rassure un petit peu ce matin, c'est qu'on était venu pour avoir des réponses sur ces sujets-là. Pour le 15 mars, donc pour les charges sociales, fiscales qui vont être relevées, là, les PME et les TPE pourront répondre avec un clic, puisque ça a été dit comme ça, donc avoir un report de charges sociales et fiscales, et surtout sur le chômage partiel, puisqu'effectivement toutes ces entreprises-là ont des salariés, n'ont plus de clients, donc dès la première heure, le chômage partiel va être pris en charge.
Alors, l'indemnité versée par l'État pour financer le chômage partiel va être aussi légèrement augmentée, mais il faut aller plus loin. Juge Bertrand Billard, il est président de l'événement qui regroupe les métiers de l'événementiel et lui dit que dans ce secteur, chômage partiel et report d'impôts ne suffiront pas.
Il y a une mesure qu'on appelle de nos voeux, il l'a relayée ce matin, mais j'aimerais qu'elle soit plus coercitive, qui est d'obliger les annonceurs, les clients qui ont commandé ces événements qui s'annulent d'ores et déjà en mars, avril, mai. Ils sont commandés, ils sont payés quelquefois en petits acomptes. Ces clients nous demandent d'arrêter les opérations, j'aimerais qu'ils payent ces événements-là. Bien évidemment, ils seront reportés, nos entreprises travailleront pour pouvoir produire ces événements-là. Mais là, tout de suite, il y a une question de solidarité. Il y a un vrai problème aussi sur une partie de ces 335 000 emplois qui sont constitués de gens qui sont auto-entrepreneurs, qui sont patrons de sociétés unipersonnelles et qui n'ont absolument aucun droit au chômage.
Donc beaucoup de questions encore en suspens, mais il a été prévu que ces rencontres entreprises pouvoir public aient lieu tous les 8 jours pour faire le point.
Marie Viennot, merci. C'est toute l'économie mondiale qui souffre face au nouveau coronavirus. Selon la CNUSED, la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, les investissements directs à l'étranger vont diminuer cette année. Un recul estimé entre 5 et 15%. Le Covid-19 qui affole aussi les marchés financiers. Loïc Loury, bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Vous êtes en direct de New York, Loïc. New York où Wall Street a pris une mesure rarissime pour tenter d'enrayer la panique boursière.
Oui, absolument. Une suspension provisoire des échanges ici à la Bourse de New York peu après l'ouverture. Et cela pendant 15 minutes. C'est un mécanisme qui est automatique, qui se déclenche lorsque l'indice Standard & Poor's 500 s'écroule de plus de 7%. Les investisseurs peuvent alors reprendre leurs esprits. C'est l'objectif de cette pause. Une nouvelle interruption est prévue si l'indice venait à perdre cette fois 13%. Alors pour l'instant, on en est loin. À la mi-journée, la place perdait environ 6%. Ce n'est pas rien, puisque cela en après l'une des pires séances de l'histoire. Cette débâcle boursière, bien sûr, est une conséquence des craintes exponentielles autour du coronavirus. Il y a plus de 500 cas répertoriés aux États-Unis, une vingtaine de décès. On est loin de la Chine ou de l'Italie, mais l'épidémie se propage. Et puis, il y a ce facteur aggravant l'effondrement des cours pétroliers après la décision de l'Arabie Saoudite d'abaisser les prix de ses hydrocarbures. Bref, c'est une journée noire à la Bourse de New York, comme ce fut le cas ces dernières heures à Paris, à Milan ou à Francfort. Les origines de ce trou d'air mondial, Stanislas, sont très différentes, mais on ne peut s'empêcher de penser au cataclysme financier de 2008.
Loïc Loury depuis New York, merci. En Europe, l'Italie reste de loin le pays le plus touché par le nouveau coronavirus, avec 366 morts et près de 7500 cas. La péninsule affiche le deuxième taux de mortalité au monde après la Chine. Un quart de la population italienne est en quarantaine. Une situation exceptionnelle qui commence à avoir des conséquences sur l'ordre public. Bruce de Galzin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes en direct de Rome, Bruce. Les mutineries se multiplient dans les prisons italiennes. On parle déjà de plusieurs morts.
Eh oui, 6 morts, tous dans la même prison, celle de Modène, d'où la révolte qui s'est généralisée aujourd'hui est partie hier. Et 6 détenus morts, 18 autres hospitalisés. Et ces détenus ont en fait dévalisé les infirmeries. Et certains sont morts d'une overdose à la méthadone, selon le secrétaire général du syndicat de la police pénitentiaire. D'autres d'intoxication, car matelas ou cellules ont brûlé. Les causes de ces révoltes, ce sont les suspensions des parloirs et la peur des détenus d'être contaminés. Nombre d'entre eux ont déjà des problèmes respiratoires. Mais c'est bien pour éviter que le virus n'entre dans les prisons que les rencontres avec les proches et les familles sont désormais interdites. Et des familles qui manifestent elles aussi devant les prisons et réclament un aménagement des peines. À Milan, Rome, Palerme, au total, dans 27 prisons, les détenus se sont révoltés. Et c'est à Foggia, dans les Pouilles, que la situation a dégénéré. Et puisqu'une cinquantaine de prisonniers a réussi à s'évader, 36 ont été interceptés, certains à plus de 100 km de Foggia à Bari. Il reste donc une quinzaine centaines de fugitifs en fuite.
Bruce de Galzin, correspondant en Italie, merci. À l'instant, on apprend que le Covid-19 a fait ses deux premières victimes en Allemagne, ses deux premiers morts, avec plus d'un millier de cas de contamination. L'Allemagne est le troisième pays le plus touché en Europe, après l'Italie et la France. L'homme qui a déclenché une nouvelle crise migratoire en Europe est à Bruxelles aujourd'hui. Recep Tayyip Erdogan rencontre en ce moment les dirigeants européens, à commencer par la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Le président turc exige de l'Europe un soutien sans faille à sa politique syrienne qui consiste à affronter militairement le régime syrien à Idlib. Pour faire pression sur l'UE, il a incité des milliers de migrants à rejoindre l'Europe par la Grèce, mais la frontière gréco-turque reste fermée. On retrouve à Bruxelles Angélique Boin. Bonsoir.
Bonsoir.
Angélique, malgré le chantage migratoire de la Turquie, les dirigeants européens n'ont pas du tout l'intention de se fâcher avec le président Erdogan.
Et non, l'heure est plutôt à la reprise du dialogue. C'est ce qu'a déclaré à la mi-journée la présidente de la Commission. Les Européens, on le rappelle, ont été très fermes dans leur déclaration pour condamner le chantage aux migrants exercé par Ankara. Mais la Turquie reste un partenaire, dit-on ici. On va donc écouter toutes les parties, dit Ursula von der Leyen, pour voir comment faire baisser la pression migratoire. Après avoir rencontré les autorités grecques avec le président du Conseil, Charles Michel, c'est donc avec Recep Tayyip Erdogan que la discussion se poursuit ce soir. Et l'une des clés pour les Européens, c'est cet accord de 2016, passé avec les Turcs, le maintien sur leur territoire des migrants en échange d'un chèque, 6 milliards d'euros prévus, dont près de 5 milliards ont déjà été engagés dans cette aide humanitaire gérée par des ONG. Une aide insuffisante pour faire face, estime Ankara, qui pourrait d'ailleurs bien avoir gain de cause, car le principe d'une rallonge de cette aide était dans les tuyaux avant même le début de la crise, afin, par exemple, de poursuivre la scolarisation des enfants réfugiés l'an prochain. Mais politiquement, ce n'est sans doute pas le bon moment pour faire un tel cadeau à Erdogan. Et cela même rappelle une source diplomatique, si cet argent ne va pas directement dans les caisses turques. Interrogée tout à l'heure sur la possibilité de ces nouvelles aides financières, la présidente de la Commission a été très claire, aucun chiffre ne sera discuté ce soir. On parlera évidemment aussi de la situation en Syrie, sujet très sensible pour les Européens divisés, et des questions de libéralisation des visas et d'union douanière. On n'attend aucune décision concrète de cette rencontre. Le dialogue ne sera pas bouclé ce soir, a précisé la présidente. Les discussions vont se poursuivre dans les prochaines semaines.
Angélique Boin en direct de Bruxelles. Merci. Chantage aux réfugiés, l'Europe prise à son propre piège. C'est la question qu'Emmanuel Laurentin posera à ses invités dans le temps du débat juste après ce journal. Voilà un classement qui ne manquera pas de relancer la polémique sur l'importance de l'industrie militaire française. La France gagne des places au hit parade des marchands d'armes dans le monde. Elle se positionne aujourd'hui à la troisième place derrière les États-Unis et la Russie. C'est ce qui ressort d'un rapport de l'Institut international de recherche pour la paix. Les explications de Nathalie Hernandez.
Près de 8% des missiles, avions de chasse ou navires dans le monde sont fournis par la France. Entre 2015 et 2019, l'Hexagone a grimpé de 2 places au classement des marchands d'armes. En raison des ventes d'avions de chasse Rafale par Dassault à l'Égypte et à l'Inde ou encore au Qatar, Naval Group également, qui a vu ses sous-marins achetés par l'Inde et le Brésil et ses frégates par les Émirats arabes unis, l'Égypte et la Malaisie. Loin devant la France, la Russie et les États-Unis resteraient respectivement les deuxièmes et premiers exportateurs mondiaux. Pour l'Institut international de recherche pour la paix, ces résultats illustrent la bonne santé de ce secteur, qui en 5 ans a connu une croissance de près de 6%. Ces matériels de guerre allant principalement au Moyen-Orient et le premier importateur étant l'Arabie Saoudite. À elle seule, elle a augmenté ses acquisitions de 130%. Quant à la France, indique l'Institut international, la courbe de ses exportations devrait se maintenir à un haut niveau sur les 5 prochaines années.
Nathalie Hernandez, merci. Le procès des époux Fillon est entré aujourd'hui dans sa 3e semaine en correctionnel à Paris. L'ancien Premier ministre et sa femme doivent s'expliquer sur l'emploi présumé fictif de Pénélope, attachée parlementaire de son mari. Avant le réquisitoire, place aujourd'hui aux premières plaidoiries des parties civiles. Le tribunal a entendu cet après-midi l'avocat de l'Assemblée nationale, l'Assemblée qui exige d'être remboursée pour les sommes versées à Pénélope Fillon. Le compte-rendu d'audience d'Antoine Marette.
L'avocat précise d'emblée qu'en se constituant partie civile, l'Assemblée nationale ne veut ni soutenir ni aggraver l'accusation. Et les dommages et intérêts qu'elle réclame sont conditionnés par le fait que le tribunal entre en voie de condamnation. C'est-à-dire uniquement si le tribunal reconnaît que les différents emplois de Pénélope Fillon à l'Assemblée nationale étaient fictifs. Pour l'avocat, dans cette affaire, la jurisprudence Kerviel ne peut pas être invoquée s'il y a condamnation. Selon cette jurisprudence, une partie civile ne peut pas demander une indemnisation totale du préjudice si elle a elle-même commis une faute qui altère ou exonère la responsabilité du prévenu. Autrement dit, l'Assemblée nationale ne peut pas demander aux Fillon et à Marc Joulot des dommages et intérêts si elle n'a pas elle-même correctement contrôlé l'emploi de Pénélope Fillon. Ce que conteste maître Yves Claes.
L'absence de contrôle suppose que l'on s'interroge sur les obligations qui pesaient sur l'Assemblée nationale. Et que d'obligations de contrôle de l'Assemblée nationale du collaborateur, il n'y en a pas. Et que les obligations des services de l'Assemblée nationale à l'égard du député, dans la gestion du contrat de droit privé qui unit le collaborateur à son député, sont régies par le mandat que donne le député au service de l'Assemblée nationale.
La partie civile réclame donc, en cas de condamnation, un préjudice financier, 1 080 000 euros. Cela correspond aux rémunérations et aux charges sociales versées pour les contrats de Pénélope Fillon à l'Assemblée nationale.
Antoine Marette depuis le Palais de Justice de Paris. La FCPE est en colère contre Jean-Michel Blanquer. La première fédération de parents d'élèves reproche au ministre de l'Éducation son attitude dans un conflit lié au nouveau bac, en l'occurrence les E3C, les épreuves du contrôle continu. Hakim Kasmi, bonsoir.
Bonsoir, Stanislas Vazak.
Selon la FCPE, Jean-Michel Blanquer aurait fait pression sur les élèves de trois lycées parisiens pour qu'ils s'engagent à ne pas perturber les épreuves.
Et oui, c'est par mail vendredi soir qu'Hélène, un pseudonyme dont le fils est scolarisé au lycée Maurice Ravel, a reçu une lettre assignée de la part du proviseur pour le passage reprogrammé des E3C qui seront délocalisés dans un autre établissement à partir du 16 mars. Une mesure qui a profondément choqué cette maman, d'autant qu'elle est inédite.
J'ai pris tout de suite comme une mise au pas des élèves. À un moment, oui, je me suis dit, mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'on fait mal au travail de parents? Les élèves, ils sont en première, ils sont inscrits au bac. On n'a pas formulé une demande d'inscription. Ils sont inscrits de droit. C'est obligatoire, il faut qu'ils passent leurs épreuves cette année. J'ai trouvé ça violent. Et pour l'enfant, qui aurait dû signer ce papier, et pour les parents aussi.
Du coup, pour cette maman comme pour d'autres, pas question de signer cette lettre. En attendant, cette mesure, eh bien, elle est dénoncée par la FCPE qui rappelle qu'elle n'a aucune valeur juridique, selon Jean-André Lasserre, le président de la FCPE Paris.
Aucun texte ne prévoit ce type de préalable puisque les lycéens sont inscrits au bac. Un lycéen s'engage individuellement à ce qu'il n'y ait pas de problème, alors que si problème il y a, il serait collectif, ce qui donnerait la possibilité à l'établissement d'infliger un zéro à tout le monde. Or, un zéro ne peut pas être utilisé comme une mesure disciplinaire.
De son côté, le rectorat de Paris que nous avons sollicité a refusé nos demandes d'interview. De son côté, lui, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, indique soutenir ces mesures qui ont été prises directement et individuellement par les proviseurs de cet établissement concerné, ce qui ne devrait pas apaiser les tensions alors que la deuxième session des E3C est prévue juste après les vacances de Pâques, fin avril.
Hakim Kasmi, merci. C'était le plus français des acteurs suédois. Max von Sydow est mort aujourd'hui à l'âge de 90 ans, né en Suède en 1929. Il était devenu français à 73 ans. Max von Sydow était un acteur fétiche d'Ingmar Bergman. Il est aussi resté célèbre pour son rôle dans L'Exorciste. Je vous propose d'écouter l'hommage de Gilles Jacob, l'ancien directeur du Festival de Cannes, salue la mémoire d'un très grand acteur.
On parle toujours des actrices de Bergman, il y a les hommes aussi. Et Max Sydow est mondialement connu, ne serait-ce que pour le rôle du joueur d'échecs contre la mort dans le septième saut. Moi, je le vois, je le revois, je l'ai reçu souvent à Cannes, c'est un espèce de géant blond, fin, osseux, aux grands beaux yeux. C'est grâce à Bergman et aussi au film Pelé le Conquérant, pour lequel il a eu la Palme d'Or, qu'il a commencé une carrière magnifique, une carrière éclectique où il mélangeait des rôles hollywoodiens classiques et d'autres plus étranges, plus inquiétants, où il a fait preuve d'une délicatesse et d'une humanité surprenante. C'est un immense acteur, comme je le disais. Mais il est un grand acteur, c'est se couler dans des rôles opposés à sa propre personne et en créer un personnage extraordinaire. par exemple dans Les Trois Jours du Condor de Sidney Pollack, est absolument terrifiant. Voilà un peu les facettes de ce très grand acteur.
L'hommage de Gilles Jacob à Max von Sydow, des propos recueillis par Véronique Robérotte. Le temps demain restera faiblement pluvieux sur la moitié nord. Au sud, un ciel plus dégagé malgré quelques nuages d'altitude. Le thermomètre remonte de 4 à 10 degrés pour les minimales du nord au sud. Les maximales seront comprises entre 9 et 20 degrés de l'Alsace à la Méditerranée. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun.